Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Radio France Internationale. RFI, il est 3h30 en temps universel, 5h30 ici à Paris.
Vincent Dublange.
Et c'est Afrique Matin qui débute, une demi-heure largement consacrée à l'actualité du continent africain. On débute bien sûr, nous, avec le journal. La guerre au Soudan et ses attaques de drones qui continuent sur Port-Soudan. Dernière en date, ce matin même, l'armée soudanaise accuse les paramilitaires FSR d'avoir envoyé leurs engins sur la base navale de la capitale provisoire du pays. Des attaques répétées depuis 4 jours maintenant qui conduisent les autorités issues de l'armée régulière soudanaise à rompre leurs relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi accusé de soutenir les FSR. Le début aujourd'hui du conclave à Rome, les 133 cardinaux catholiques de moins de 80 ans pour désigner le prochain pape se rassemblent à partir de cet après-midi. Ils seront donc en conclave. On va tenter d'analyser les espoirs africains, non pas en termes d'hommes, mais plutôt de philosophie. Le prochain souverain pontife est notamment attendu sur la question des conflits armés, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la fin de la visite hier du président de la Commission de l'Union africaine à Djouba. Et puis le retour des marchands ambulants sur l'avenue de l'Indépendance à Antananarivo. Les jours se suivent et se ressemblent à Port-Soudan, la capitale provisoire du gouvernement issu de l'armée régulière soudanaise, subit les attaques des forces de soutien rapide. Des attaques par drone lancées à plusieurs centaines de kilomètres de là, à l'ouest, puisque les paramilitaires FSR ne sont pas présents autour de Port-Soudan. Ce matin, c'est la base navale de l'armée soudanaise qui est visée. Quatrième jour d'attaque, donc, où ont notamment été endommagés ces derniers jours le grand dépôt pétrolier de Port-Soudan ou encore l'aéroport international. Il y a d'ailleurs une très forte inquiétude sur l'aide humanitaire car l'ONU utilise cet aéroport pour ensuite, autant que faire se peut, aider les populations qui manquent de tout dans le pays en guerre depuis plus de 2 ans. L'armée régulière soudanaise accuse les Émirats Arabes Unis de soutenir les FSR et vient d'ailleurs de franchir un cap dans sa réponse avec la rupture des relations diplomatiques avec Abu Dhabi. Annonce hier le général Borhan qui a pris la parole à la télévision depuis Port-Soudan, Lisa Fabian.
Une colonne de fumée sombre s'élève au-dessus du principal port soudanais en arrière-plan de la vidéo. Face caméra, le général Al-Burhan fait appel à la sagesse du peuple soudanais, sommé de ne pas trembler face à de tels incidents.
Le peuple soudanais continuera d'écrire son histoire car c'est un peuple qui ne s'effondre jamais, qui se tient droit, qui sait être patient. Nous avancerons unis pour faire plier cette milice, pour la faire tomber et pour faire tomber ceux qui la soutiennent. Nous disons à tous ceux qui ont attaqué les Soudanais que l'heure de la rétribution viendra. Par la grâce de Dieu, les Soudanais sortiront victorieux.
Le Soudan accuse les Émirats Arabes Unis de fournir des armes sophistiquées aux FSR. Le ministre de la Défense, Yassine Ibrahim, a dénoncé une agression contre la souveraineté du pays.
À la suite de cette agression continue, le Conseil de sécurité et de défense a décidé de déclarer les Émirats Arabes Unis comme un État agresseur, de rompre les relations diplomatiques avec cet État et de fermer l'ambassade et le consulat général du Soudan. Le Soudan se réserve le droit de répondre à l'agression par tous les moyens nécessaires pour défendre la souveraineté du pays.
En plus du port, l'aéroport, des dépôts de gaz et de pétrole, une base militaire ou encore une station électrique ont été pris pour cible à Port-Soudan.
Et nous sommes de retour à Port-Soudan pour notre grand format de la rédaction, signé Gaël Alex, notre envoyé spécial, dans une dizaine de minutes.
Afrique Matin sur RFI.
Ils vont se dégourdir une dernière fois les jambes en extérieur cet après-midi. Les cardinaux électeurs vont parcourir la centaine de mètres qui séparent leur lieu de résidence et la chapelle Sixtine à Rome à 16h30. Ils y entreront pour ne plus en sortir avant d'avoir élu un nouveau pape. 133 cardinaux votent pour désigner celui qui sera le chef de file des catholiques et le chef d'État du Vatican. Ils viennent de 70 pays. Parmi eux, 17 sont africains. Véronique Guémard, chiffre en hausse qui montre bien le virage vers les pays du Sud pris sous le défunt François.
17 cardinaux africains vont participer au conclave, soit 12% du collège électoral. Pourtant, l'Afrique représente 20% des catholiques dans le monde et l'église la plus dynamique. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Soudan du Sud ou encore Guinée ou Ghana, des figures influentes de cardinaux se sont imposées. Elles ont pesé de tout leur poids, par exemple en décembre 2023, après la déclaration Fiducia Supplicans publiée par le Vatican qui autorise la bénédiction des couples homosexuels en obtenant son exemption pour l'Afrique auprès du pape François. Celui-ci avait visité 10 pays d'Afrique et pointé les inégalités, les guerres et les prédations des ressources naturelles. Lors des congrégations générales à Rome, les cardinaux ont particulièrement tenu à témoigner de la situation dans les régions en conflit et insisté sur la nécessité du dialogue avec les populations d'autres religions et d'autres cultures, tout en pointant du doigt les dangers des proliférations de sectes dans leur région, une allusion aux églises de réveil, avec une priorité pour l'Église catholique en Afrique, porter haut et fort la voix de la paix. Véronique Guémard, Rome, RFI.
Et c'est aussi exactement ce que pense le père Donald Zagoré, les prêtres de la Société des Missions Africaines. Il officie en France. Pour lui, l'origine géographique du prochain pape n'a aucune importance. En revanche, l'Église catholique africaine, elle, doit, selon lui, renforcer son rôle engagé pour la promotion de la démocratie, de la paix et de la justice sociale.
L'un des chantiers majeurs aujourd'hui, c'est vraiment que cette Église prenne toute sa place dans l'engagement prophétique, dans l'engagement, je dirais, à la limite politique. Et là, je voudrais bien m'appuyer sur l'héritage spécial que nous a laissé le pape François. On a une Église qui a besoin de peser sur l'échiquier politique, qui a besoin d'être la voix des sans-voix, de s'engager aux côtés des plus pauvres, aux côtés de toutes ces populations qui sont aujourd'hui humiliées, mutilées, que la voix de cette Église se fasse plus entendre, qu'elle soit l'avant-garde de nombreuses crises qui minent le continent, qu'elle soit la lumière pour à la fois sa population, à la fois pour tous ses politiques, pour réveiller les consciences, pour interpeller, pour aider vraiment ce continent-là à demeurer sur le chemin de la fraternité, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la paix. Donc il y a vraiment un rôle précieux que l'Église d'Afrique doit jouer, surtout dans la pacification, dans l'apaisement de ce continent qui est tout le temps en ébullition, qui est tout le temps en tension, qui est tout le temps en guerre.
Un propos recueilli par Amélie Tullet. Qui sont les cardinaux africains qui comptent? Leurs portraits que l'on a déroulés ces derniers jours sur l'antenne sont à lire ou à relire sur l'appli RFI, où l'on vous propose également ce matin de vous expliquer comment les papes choisissent leur nom de règne. Dans le journal de 4h temps universel, dans une vingtaine de minutes, rencontre, juste avant qu'il ne fasse vœu de silence, avec le cardinal franco-algérien Jean-Paul Vesco. Et parmi les 133 cardinaux électeurs, tiens justement, ceux qui ont moins de 80 ans, il y a le sud-soudanais Stephen Ameyou. Il a été créé cardinal par François en 2023, après avoir accueilli le pape dans son pays. Le cardinal Ameyou, qui rappelait encore récemment les mots du souverain pontife d'alors, pour que les armes se taisent au Soudan du Sud, entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à son vice-président Riek Machar. La tension demeure dans le pays, la violence continue de surgir ça et là. Riek Machar est toujours en résidence surveillée. L'Union africaine et le bloc régional IGAD ont envoyé une mission de haut niveau, avec notamment le président de la commission de l'UA, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. RFI Djouba, Florence Métaux.
C'est la dernière d'une liste qui s'allonge, celle des tentatives de médiation dans la crise sud-soudanaise. À l'issue de sa rencontre avec Salva Kiir et d'autres membres du gouvernement, le président de la Commission de l'Union africaine a dit vouloir préserver la paix et la stabilité dans le pays. « Nous avons exprimé notre inquiétude face à la détention du docteur Riek Machar », a-t-il ajouté, intimant le gouvernement sud-soudanais à, je cite, « accélérer les poursuites judiciaires si des preuves documentées corroborent les allégations à l'encontre du vice-président détenu depuis plus d'un mois. Mahmoud Ali Youssouf a dit espérer qu'un retour au dialogue sera possible au plus vite, sans préciser si ce dialogue devrait inclure Riek Machar. Pour Daniel Aketch-Tiong de l'International Crisis Group, il semble que le président Salva Kiir veuille en réalité réitérer le scénario de 2016 et remplacer Riek Machar avec l'appui des institutions régionales. Mais le chercheur pense que cela ne va rien résoudre à la crise, comme en 2016, la guerre s'était en effet intensifiée après l'éviction du vice-président. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Les logements étaient prêts, ils n'ont pas servi pour le Royaume-Uni. Autant les rendre utiles pour les États-Unis. C'est ce qu'on se dit, en tout cas à Kigali. Après les déboires judiciaires, puis l'abandon politique du programme d'envoi de migrants arrivés au Royaume-Uni vers le Rwanda, abandon acté l'an dernier au Royaume-Uni, le Rwanda relance cette même idée, cette fois donc avec Washington, puisque l'administration Trump veut expulser des centaines de milliers de migrants clandestins du territoire américain. Le ministre rwandais des Affaires étrangères confirme que les deux pays discutent, et cela entre aussi dans le cadre plus global des négociations actuelles sur le conflit dans l'est de la RDC. C'est en tout cas ce que nous dit ce matin Thierry Vircoulon, il est chercheur associé au Centre Afrique de l'Institut français des relations internationales.
Le Rwanda a déjà mené ce genre de politique. C'est exactement les mêmes motivations que le gouvernement rwandais avait quand il a signé l'accord avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire d'une part recevoir de l'argent pour ça. L'accord entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni a coûté 300 millions d'euros au Royaume-Uni pour rien, finalement. Et puis le deuxième aspect, c'est en effet se rendre indispensable, entrer dans les bonnes grâces de l'administration Trump au moment où évidemment elle cherche d'une part des pays de destination pour tous les migrants qu'elle veut expulser, mais surtout au moment où il y a des négociations, un processus de négociation sur le conflit dans l'est de la RDC qui est mené par Washington, et donc c'est une raison de plus pour Kigali d'essayer de rentrer dans les bonnes grâces de Washington.
Entretien en longueur à retrouver sur nos environnements numériques. RFI, 6h41 à Antananarivo, la capitale malgache, où les vendeurs de rue sont de retour sur l'avenue de l'Indépendance. Fin mars, vous vous en souvenez peut-être, on en a parlé sur RFI, cette artère au cœur de Tana, qui abrite notamment l'hôtel de ville, avait été vidé en quelques jours de tous ces marchands ambulants. Décision de la municipalité, retour à l'ordre et à la sécurité, nous disait-on. Mais la maire d'Antananarive se heurte depuis à la résistance des vendeurs et vendeuses de rue. Ils reprennent d'ailleurs discrètement leur quartier depuis une semaine, comme a pu s'en rendre compte sur place Pauline Le Troquier.
Les marchands de rue se font de nouveau entendre, avenue de l'Indépendance. Si leur présence est interdite, elle est dans les faits de nouveau tolérée, à condition de ne pas étaler ses marchandises. Hanche est revenue, de peur de perdre sa clientèle, mais elle se fait discrète. Vendeuse de crédit téléphonique depuis 18 ans, elle fuit les agents de police municipale.
Les maires de la ville ont tous essayé de nous faire partir. Et on a toujours réussi à revenir. Cette fois, on demande la grâce de Madame le maire. C'est chez nous, ici. On ne pourra pas vendre ailleurs. Les autres quartiers où on nous propose d'aller sont déjà pris par d'autres marchands.
L'avenue a été métamorphosée en un temps record sous les yeux des Tananariviens le mois dernier. Avec le retour progressif des marchands, elle tend à redevenir l'endroit animé et bondé qu'elle a toujours été. Ange, riverain, se dit partagé.
Mitigé parce que d'un côté, quand ils étaient partis, on peut circuler librement, c'est propre. Mais si ces marchands de rue sont là, c'est qu'il y a une raison, la crise de l'emploi à Antananarivo. Et ils n'ont pas le choix, donc je les comprends.
Un premier revers pour la maire de la capitale. Élue il y a moins de 4 mois, elle avait promis une ville définitivement libérée des vendeurs informels dans les zones les plus encombrées. Pauline Troquier, Antananarivo.
Et terminons ce journal au Kenya. 4 personnes sont jugées pour une tentative d'exportation illégale d'animaux. Point de lion, de pangolin ou de cornes de rhinocéros ici, mais des fourmis. 5000 fourmis vivantes transportées dans des tubes à essai. Butin estimé jusqu'à 6 700 € à la revente, dit la justice kenyane. On attend le jugement ce mercredi. Elissar Mokadim.
Cette espèce de fourmi, la Messor cephalotes, est très recherchée pour ses couleurs vives, rouge et noir, et sa grande taille de 2,4 cm, des caractéristiques qui font monter son prix, d'où l'intérêt de les revendre à des collectionneurs en Europe et en Asie. L'entomologiste Dino Martins compare les raisons de ce trafic avec d'autres espèces.
Souvent, la motivation des gens qui achètent de l'ivoire ou des écailles de pangolin ou des cornes de rhinocéros, c'est d'avoir un objet de luxe, mais les gens qui achètent des fourmis en font des animaux de compagnie.
L'Agence nationale de conservation du Kenya soupçonne aussi un acte de biopiraterie, c'est-à-dire de pillage du vivant. Ce type de trafic n'est pas sans conséquence sur la faune et la flore.
Sans cette espèce, l'écosystème africain pourrait s'effondrer parce qu'elle est une espèce clé. Elle déplace les nutriments, elle sert comme nourriture pour d'autres créatures. Elles sont incroyablement connectées dans le paysage. Sans elles, il n'y aurait pas d'éléphants et pas d'humains.
Aujourd'hui, cette espèce n'est pas en danger d'extinction, mais elle est protégée et l'expert s'inquiète de la quantité saisie. Au Kenya, posséder un spécimen sans permis est passible d'une amende de 8 700 € ou de 5 ans de prison.
Et le crime organisé qui se diversifie dans le trafic d'espèces dans le monde, c'est le thème de questions d'environnement. 7h22, tout pile heure de Paris. Un mot de foot en Ligue européenne des champions hier. L'Inter Milan s'est qualifié pour la finale en battant le FC Barcelone. Après prolongation, 4-3. Autre match ce soir, la deuxième demi. Le PSG reçoit Arsenal à suivre en direct sur RFI, 19h TU.
Afrique Matin sur RFI.
Et là, tout de suite, il est 3h45, temps universel. D'ici au journal de 4h TU, on va parler pas mal du sous-sol congolais. Perspective d'abord du marché mondial du cobalt. métal dont la RDC détient les deux tiers des réserves. Pour l'instant, elle en interdit toujours les exportations pour encore quelques semaines, dans un contexte où la demande est toujours plus forte, vous l'entendrez, portée par l'industrie automobile. Nous faisons aussi le point sur ce projet pharaonique censé faciliter l'export justement des minerais critiques du Congo, notamment de la Zambie aussi, vers l'Atlantique, le corridor de l'Obito. Il faudra lever les obstacles, notamment routiers, en RDC, décryptage Afrique Éco dans 5 minutes. Et d'abord RFI Reportage. Avec ce dernier arrêt au Soudan, troisième grand format de la rédaction Afrique rapporté par notre envoyé spécial, nous avons entendu de nombreux témoignages d'habitants de Khartoum ravagés par deux années de guerre et par la violente occupation par les miliciens des FSR du général Hemeti. Ce matin, RFI vous emmène tout à l'est, dans la capitale de facto du gouvernement issu de l'armée régulière du général Burhan, Port-Soudan. La ville, on l'a dit dans le journal, est la cible depuis plusieurs jours des drones des FSR. Nouvelle attaque ce matin. Elle avait pourtant été jusqu'ici épargnée par les combats, les violences. Et de ce fait, elle est le lieu d'accueil de centaines de milliers de Soudanaises et de Soudanais. De ce chaos émergent quelques sons de guitare ce matin et de douces voix. Gaël Lalex a rencontré des artistes exilés dans leur propre pays.
Dans la cour de l'école Al-Shourta, à côté du marché central, on trouve quelques tentes, des chevalets, des instruments de musique et un amplificateur. Mohamed Hassan est le coordinateur du lieu.
Cet endroit est un refuge pour les artistes, musiciens, comédiens, réalisateurs. Nous avons quatre pièces. La première pour les arts plastiques. À côté, c'est le studio de musique. La troisième pièce est consacrée aux arts dramatiques. Et la dernière, tout au fond, c'est là que vivent les familles. Ici, on vit en harmonie. On vient d'endroits très différents. On a vécu beaucoup de choses. Mais les artistes créent l'harmonie. C'est ça la musique.
Amine organise des ateliers avec des enfants déplacés. Avant la guerre, il était professeur de musique et concertiste dans le grand hôtel Corinthia à Khartoum.
J'essaie avec ces outils, la musique et ma guitare, d'apporter quelque chose de bénéfique aux miens. Grâce à la musique, à l'art, j'enseigne aux enfants à développer leurs capacités, à gérer les autres, la communauté, leur famille, eux-mêmes, parce que maintenant, tout est ravagé. Dès le début de la guerre, beaucoup de familles sont restées coincées et la vie est devenue compliquée. C'est toujours difficile, mais je peux utiliser mon talent pour aider les autres. La vie doit continuer.
C'est par le bouche à oreille que s'est constituée cette communauté d'artistes. Hassine Abdulaziz Sahan est compositeur et interprète. Il vient du Nord Kordofan et fait de la musique sa thérapie.
Ça aide de continuer à créer. Je pense que la musique est bénéfique pour guérir et permettre de rêver à demain, de regagner espoir. C'est pour ça que j'ai besoin de mes amis, d'artistes comme moi, à mes côtés, pour travailler ensemble. J'ai déjà composé plusieurs morceaux sur la guerre. Ils parlent de nos maisons abandonnées. L'art fait une énorme différence. On est tous plongés dans cette situation pénible, dans l'obscurité. On a tous besoin de voir la lumière.
Gaël Alex, de retour de Port-Soudan, Nairobi, RFI.
Et l'ensemble des reportages de Gaël à retrouver sur notre appli de podcast RFI Pure Radio, rubrique Reportage Africa.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
Le dossier Afrique Éco en RDC dans une minute. Mais d'abord la une de l'actualité internationale de ce mercredi 7 mai 2025. Outre le conclave que l'on va largement suivre, dont on va largement parler sur RFI aujourd'hui, il y a cette escalade entre l'Inde et le Pakistan. Les deux puissances nucléaires voisines se sont mutuellement bombardées. Cette nuit, l'armée pakistanaise parle de 8 civils tués dans 24 frappes à l'aide de missiles. L'armée indienne affirme de son côté que des tirs d'artillerie pakistanaise ont visé son territoire dans le Cachemire, tuant 3 civils. Le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire, a tenté de plaider l'ONU. Les États-Unis encouragent à rouvrir un canal de discussion. La Chine déplore les frappes indiennes et appelle à la retenue. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, attendu ce matin à Paris avant de se rendre à Varsovie. En Pologne, Paris nourrit de grands espoirs dans le président du Parti démocrate chrétien allemand. Mais l'élection hier au forceps de Friedrich Merz par les députés allemands après deux tours de scrutin, alors qu'il devait s'agir d'une formalité, inquiète chez ses alliés. Emmanuel Macron accueille également cet après-midi à l'Elysée le président syrien Ahmad al-Sharaa pour sa première visite en Occident. Et puis le président chinois Xi Jinping est attendu aujourd'hui pour 4 jours à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie. C'est l'un des grands projets économiques de l'Afrique centrale, le corridor de Lobito, du nom de ce port angolais, censé être un jour le terminus des minerais extraits du sud-est de la RDC et du nord de la Zambie. En concurrence avec Lobito, la RDC envisage par ailleurs de développer le port de Banana. Ces projets avancent doucement, ils sont soumis, il faut dire, aux aléas politico-diplomatiques venus de Washington. Le train demeure le moyen privilégié de transport de ces minerais, cobalt, lithium, cuivre. Mais la route n'est pas exclue et là, clairement, le bât blesse, comme nous l'explique Denise Maéo pour Afrique Éco.
Sur le tracé du corridor de Lobito, se déplacer par la route de Kolwezi à la frontière avec l'Angola est un parcours du combattant, témoigne Donat Timboge. Il est transporteur des marchandises sur ce tronçon.
Pour parcourir les 440 km, vous pouvez passer 2 semaines, 20 jours, même 1 mois. Bon, les propriétaires des camions, pour la plupart, ont décidé de retirer leurs camions de la circulation.
Cette situation n'est pas unique. La RDC a un réseau routier de 156 000 km, dont près de 4 000 seulement sont asphaltés. Le Salon du développement des villes et des corridors à Lubumbashi a recommandé l'investissement dans ce domaine. Jean Bamanissa est le directeur d'Expo Béton.
Nous avons aussi entendu des appels urgents sur le partenariat public-privé pour accélérer les investissements dans les infrastructures stratégiques.
Mais du côté du secteur public, le Fonds national d'entretien routier FONER, qui est l'organisme chargé de la mobilisation des ressources financières, connaît un déficit criant. Ses recettes proviennent à 95% de la redevance sur la mise en consommation des produits pétroliers. Alors qu'il a besoin d'au moins 950 millions de dollars par an, le FONER ne mobilise que 156 millions à cause de la fraude. Pierre Bundoki est le directeur général du FONER.
Première faute, c'est manifeste, c'est que certains produits n'arrivent pas dans les entrepôts. Deuxième niveau de faute, c'est que quand ça arrive dans les entrepôts, au moment de la sortie, tout n'est pas renseigné. À titre législatif, je vais donner l'année 2024.
Le FONER devait percevoir 458 millions de dollars.
Seulement 164 millions de dollars ont été encaissés par le FONER.
Pour l'heure, la RDC reste le maillon faible de ces corridors, faute de capitaux. Pour élever les défis, la Tanzanie a proposé à la RDC son modèle de mobilisation locale de ressources financières. Patient Mwenze est le directeur adjoint de la CRDB, une banque commerciale tanzanienne installée en RDC depuis 2023.
En Tanzanie, il y a eu le Samia Bonds. C'est en fait une levée de fonds qui a été faite. Ça a permis de lever en escale de 3 mois 125 millions de dollars qui sont allés dans la construction des infrastructures.
La RDC espère qu'avec les partenaires privés, elle pourra exploiter tous les corridors sud.
Denise Maéo. Et la demande pour ces minerais qui viennent notamment de la région de Lubumbashi et de Kolwezi dans le sud-est de la RDC est en hausse. C'est maintenant la chronique des matières premières. On l'a dit il y a quelques jours ici même, la Chine est friande de cuivre. En ce moment, eh bien la demande de cobalt, qui est un coproduit du cuivre, elle devrait augmenter. C'est ce que prédit l'Institut du Cobalt, association des industriels du secteur. Bonjour Marie-Pierre Olfand.
Bonjour.
Les besoins en cobalt sont tirés par la fabrication des batteries contenues dans les véhicules électriques?
Oui, la demande en cobalt est effectivement directement liée aux bonnes ventes des véhicules nouvelle génération. Cette hausse s'observe au premier trimestre sur tous les grands marchés, plus 22% en Europe, plus 16% aux États-Unis et plus 36% en Chine, pays qui remporte donc la palme avec des ventes qui ont décollé au premier trimestre. Globalement, la demande mondiale en cobalt pourrait être de 227 000 tonnes cette année, selon l'Institut du Cobalt. C'est en gros 10% de plus que l'année dernière.
Et c'est une demande qui s'inscrit, Marie-Pierre, dans un marché excédentaire, mais amputé temporairement de la production congolaise.
Effectivement, le cobalt congolais est interdit d'exportation. Or, il représente les 2/3 de l'approvisionnement mondial. La décision annoncée fin février a été prise pour 4 mois, mais pourrait être rediscutée d'ici fin mai. Entre-temps, l'éventualité de la mise en place de quotas d'exportation a été évoquée. On parle aussi de discussions éventuelles avec l'Indonésie, le 2e producteur mondial de cobalt. L'idée étant de trouver une manière de gérer la suroffre et de mieux contrôler les prix. La décision de Kinshasa a permis de les faire remonter en flèche pendant un mois. Ils ont depuis marqué une pause dans l'attente peut-être de nouvelles annonces.
Hors de la RDC, Marie-Pierre, il y a des stocks de cobalt, mais ils pourraient bientôt ne plus être suffisants.
Oui, on trouve des stocks entreposés en Zambie et en Afrique du Sud pour parler du continent africain et sinon essentiellement en Chine et en Malaisie. Fin décembre, les analystes estimaient que ces réserves seraient suffisantes pour répondre à la demande du marché pendant 4 mois environ, mais pas pour faire face à une interdiction plus longue. Le gel des exportations congolaises va donc inévitablement réduire, voire vider les stocks hors de RDC, mais n'empêchera pas une accumulation de cobalt dans le pays. Seul un ralentissement de la production minière et une demande plus importante pourraient influer sur l'excédent mondial et sur les prix du cobalt.
Merci Marie-Pierre Olfond. Et votre chronique à retrouver sur RFI.fr. Le rendez-vous avec Outre-mer, la première un peu plus de 2 mois après les dégâts causés par le passage du cyclone Garance. Les Réunionnais qui visitent le salon de la maison en ce moment seront sans doute nombreux à s'intéresser au stand du CAUE. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Le CAUE, comprenez le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Invité hier matin de la première réunion, sa directrice Catherine Morel a rappelé à tous ceux qui désirent construire dans le département de l'océan Indien qu'une maison à Saint-Denis ou à Saint-Gilles, ça ne se pense pas forcément comme à Nice ou à Paris. Catherine Morel répondait aux questions de Cécile Thomas.
Sous les tropiques, nous avons aussi les phénomènes cycloniques qui font partie du climat dont il faut tenir compte. Et je pense que malheureusement, les gens ont un petit peu oublié ça. Par exemple, les grandes baies vitrées, c'est bien, ça fait moderne et tout, mais pour avoir une baie vitrée qui résiste au vent cyclonique, il faut qu'elle soit vraiment... pas en béton armé, mais ouais. Il faut qu'elle soit vraiment costaud, ce qui n'est bien souvent pas le cas. Ce qu'il faut, c'est avoir les attestations des fabricants pour dire quels sont les classements au vent, à l'air, à l'eau de ces menuiseries. Et ce qu'il faut surtout, c'est les protéger. Là, nous avons fait des études, voire un petit peu dans les différents maisons, appartements, etc., ce qui s'est passé pendant le cyclone Garance. Bien souvent, ce sont les fenêtres qui ont explosé parce qu'elles n'étaient pas de bonne qualité, parce qu'elles n'étaient pas bien fixées. Et donc, vous avez une pression énorme avec le vent et ce qui fait que la fenêtre a explosé. Donc, l'air est rentré de manière très forte dans la maison. Et nous avons malheureusement constaté que dans toutes les maisons où il y a eu des dégâts considérables, les règles de construction n'étaient pas respectées.
À La Réunion, il y a eu Garance. À Mayotte, il y a eu Chido. 4 mois et demi après le passage destructeur de ce cyclone, les professionnels du tourisme du département 101 se relèvent tout doucement. Vaille que vaille, et malgré les dégâts toujours présents, il faut pourtant continuer, et avec le sourire, si possible, car les touristes, eux, ne sont évidemment pas là pour entendre parler de difficultés ou de morale à zéro. Reportage Jamila Swadiki.
À la sortie de Mzoisia se trouve l'établissement de Antifati Hafidou, 4 chambres d'hôtes, un restaurant, une petite structure qui n'a pas été épargnée par Chido.
C'était dur, il y a eu beaucoup de dégâts. Pour une petite entreprise comme la mienne, j'avais quand même la nourriture abîmée. J'avais quasiment dans les 3 000 euros de dégâts de toutes les nourritures que j'ai mis à la poubelle. J'avais la 4e chambre qui était touchée à refaire aussi.
Et la puiser sur ses fonds propres pour tout rénover.
C'est lourd pour nous jusqu'à maintenant, mais je voulais absolument ne pas laisser tomber, je voulais absolument reprendre, donc du coup je me suis donnée à fond. J'ai pu reprendre depuis le 1er mars.
À quelques mètres de là, Angouja, le jardin maoré animé également par la même volonté, pense difficilement les plaies laissées par Chido après les premiers jours de sidération face à l'ampleur des dégâts. Damien Thomas, directeur de jardin maoré.
On était un peu désarmé. On a perdu plus d'un tiers de notre structure. 15 hébergements ont été, pour certains, en totalité détruits, pour d'autres, énormément fragilisés avec des problèmes de sécurité qui ont suivi forcément. Le restaurant principal a, lui, été détruit aussi.
Il a fallu plusieurs semaines de déblaiement et de travaux pour que l'établissement puisse reprendre ses activités de restauration et de loisirs. Mais beaucoup reste à faire alors que les aides annoncées ne suivent pas.
Les aides n'ont pas du tout été à la hauteur des problématiques rencontrées de tous les acteurs économiques de l'île. Les prévisions d'activités partielles qui ont été reconduites jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire demain, c'est pas suffisant non plus.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Benoît, bonne journée également. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'être à l'écoute de la radio du Monde RFI. Dans le prochain journal Afrique, dans une demi-heure, on revient sur le procès du créateur de mode rwandais Moses Twerwa. On parlera aussi des défis du catholicisme en Afrique à l'occasion du conclave. Dans 30 secondes, le journal international.
Bonjour, c'est Juan Gomez. C'est aujourd'hui que débute le conclave devant désigner un successeur au pape François. Quel doit être le profil du nouveau souverain pontife? Sera-t-il africain? Devra-t-il s'inscrire dans la continuité ou adopter une ligne plus conservatrice? On en parle.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.